diplomate burkinabé et à Lubumbashi sur Skype nous avons Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Merci à tous d'être avec nous. Alors Niagale, négocier avec les groupes djihadistes n'est pas une nouveauté dans la région, mais est-ce une bonne idée?
Alors, la question de savoir s'il s'agit d'une option intéressante ou non appartient de toute façon avant tout aux autorités nationales qui doivent, à mon avis, elles-mêmes s'inscrire dans le cadre d'une démarche extrêmement inclusive. Et ce qui est intéressant, si l'on s'intéresse à ce qui s'est produit sur ce front au cours des dernières années, c'est que l'on voit qu'un pays comme le Mali, par exemple, a organisé des assises assez larges en 2017 avec la conférence nationale d'entente, puis après en 2019 avec le dialogue national inclusif, et les recommandations de ces assises ont véritablement recommandé de engager des pourparlers avec les chefs djihadistes de groupes armés djihadistes nationaux.
Il y a des groupes acceptables peut-être dans ces discussions, n'est-ce pas? Alors Ismaël Diallo, les militaires burkinabés ont pris le pouvoir à cause, disent-ils, des manquements dans la lutte contre le terrorisme par le régime de Roch-Marc Christian Kabore. Alors jusqu'à une période récente, négocier avec ces groupes pouvait être perçu comme un signe de faiblesse. Qu'est-ce qui explique selon vous cette décision du lieutenant-colonel Damiba?
Je pense que depuis un bon moment, ils sont sur le terrain, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'avancée favorable à l'armée. Et il fallait donc trouver d'autres options. Et parmi ces options, c'est prendre langue avec, avec les groupes armés directement. Et à leur corps défendant, ils ont dû accepter de le faire.
Alors, est-ce à dire que dans une certaine frange de l'opinion, cette option de négociation n'était pas viable?
Oui, cette option n'était pas du tout encouragée parce que il fallait que l'armée elle décide assez rapidement. L'armée se plaignait de ne pas avoir des équipements et des armes. Ces équipements et ces armes leur ont été fournis en abondance. En réalité, ce qui se passe est une question de concept de lutte. La méthode de combat n'est pas la même. L'armée nationale agit des concepts classiques des guerres et des armées classiques, alors que les terroristes utilisent d'autres méthodes. Il faut s'adapter aux méthodes de terrorisme. Prendre langue avec les personnes, d'accord, mais toujours est-il qu'il ne faut pas le faire en position de faiblesse.
Alors Henri, certains se demandent souvent, alors qu'est-ce qu'il faut négocier quand on sait que ces groupes ont des demandes souvent incompatibles avec l'intégrité territoriale ou disons la protection de la laïcité même de l'État. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à négocier?
Alors tout d'abord, tous ces groupes qui écument en tout cas le Burkina ont au-delà évidemment des revendications dites territoriales, des revendications d'ordre sociétal. On le sait, ces groupes islamistes, djihadistes revendiquent évidemment la mise en œuvre de la charia. Est-ce que cette mise en œuvre est compatible avec la lettre et l'esprit qui régit les institutions du Burkina? Là, et la question à laquelle il faudra répondre, de la même manière que si l'on décide, comme cela vient d'être annoncé, de se donner 5 mois pour évaluer l'état d'avancement des discussions, on prend malheureusement le risque de renforcer, de conforter ces groupes qui, le moment venu, seront, je dirais, en position de force pour discuter. Le dialogue est toujours bon à prendre, mais il faut bien évidemment circonscrire les domaines dans lesquels l'autorité de l'État ne sera pas négociable et voir de quelle manière certains aménagements peuvent être effectués tout en préservant évidemment l'essentiel.
Niagale, ces États ont toujours été confrontés à une sorte de dilemme, hein, même s'il a toujours existé des canaux informels de discussion avec ces groupes djihadistes. Alors dans le cas du Mali, que vous connaissez bien, on voit aujourd'hui que l'option militaire semble mise en avant. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à un équilibre entre ces deux options ?
Alors, je pense que il y a toujours été erroné d'opposer approche négociée et traitement militarisé ou sécuritaire de la crise. En réalité, les actions qui s'inscrivent dans le champ militaire ont précisément pour objectif de permettre à l'État de se trouver dans une position plus favorable au moment des négociations, puisque tout conflit, vous l'avez rappelé en introduction, se termine par des pourparlers. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sursaut que l'on voit à l'œuvre du côté de l'armée malienne ne signifie pas nécessairement que cette option de la négociation, qui a quand même été celle qui a été retenue par les dirigeants successifs du Mali depuis au moins 3 ans, soit abandonnée. Je pense qu'elle est perçue comme complémentaire, ou en tout cas, qu'elle devrait l'être.
Ismaël Diallo, qui doit prendre part à ces négociations en dehors des groupes armés et des représentants du gouvernement ?
Il ne faudrait pas seulement mettre les représentants du gouvernement et les groupes armés face à face. Il faudrait mettre les représentants des populations et des zones rurales. Ce sont elles qui sont en contact permanent ou susceptibles d'être en contact permanent avec les terroristes. Et ce sont les personnes également qui, mieux que les militaires et que les fonctionnaires de l'État, connaissent la réalité du terrain. Il faudrait que ces personnes-là, mieux que le personnel étatique, prennent langue avec les groupes armés.
Et Henri Désiré Zouzi, comment établir la confiance entre les deux camps? Pour prendre un peu l'exemple de la RDC, on a vu d'anciens chefs de guerre comme Germain Katanga envoyé comme émissaire de la paix auprès de la Comico, qui est très active dans l'Ituri. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Est-ce que c'est une expérience qui peut prospérer ailleurs?
C'est une expérience qui est particulièrement périlleuse, puisque Thomas Lubanga en a fait les frais en ayant été enlevé par les milices Codeco, qui ne reconnaissaient pas du tout en lui comme un interlocuteur fiable, puisque lui-même étant un ancien chef de guerre. Cela étant, c'est une formule qui peut effectivement avoir ses avantages, dès lors que ceux qui sont désignés pour approcher ces groupes armés, non seulement parlent le même langage, mais ont peut-être la capacité de faire passer des messages de manière beaucoup plus facile. Mais si vous permettez, il faut quand même préciser que la différence avec la RDC, c'est que vous avez une triple dimension dans, je dirais, l'approche de ces groupes armés. Il y a une dimension à la fois identitaire, économique et politique. Identitaire parce qu'effectivement, vous avez des communautés qui sont en lutte, en rivalité, qui s'affrontent pour, j'allais dire, le contrôle de certaines zones. Les aspects économiques, on les connaît puisqu'il y a l'exploitation illégale des ressources, et puis politique parce que le moment venu, au moment des négociations, eh bien, ce sont des prétentions de pouvoir être soit intégrés dans l'armée nationale ou intégrés dans les institutions qui font l'objet de discussions. Et on a évidemment l'expérience de 2002 avec l'accord de Pretoria et les accords de Sun City.
Niagale, est-ce qu'on peut voir un peu ce qui se passe en RDC? Se dire peut-être qu'au Mali ou dans le Sahel, ça, c'est une option, même si on sait qu'au Mali, par exemple, il y a des prêcheurs comme l'imam Diko qui ont été proposés, ce qui est un peu différent aussi.
Alors, la question, bien entendu, du rôle des acteurs qui font la promotion de l'islam politique non violent est extrêmement importante. Il est évident que l'imam Diko, à un moment donné, aurait pu jouer un rôle, hein, et a été mis en avant par certaines autorités pour ce fait, avant la crise politique de 2020. Mais on s'aperçoit aussi que des autorités musulmanes, comme le Haut Conseil islamique du Mali, ont toujours joué un rôle extrêmement important, y compris dans la négociation d'accords locaux, par exemple dans la région du cercle de Miono, du côté du village de Farabougou, qui était assiégé, ou des accords portant sur des questions extrêmement précises, hein, comme la possibilité pour les habitants d'aller au champ, de se déplacer, de faire paître leurs troupeaux, ont pu être trouvés. Je souhaiterais simplement ajouter un autre élément, qui est celui de l'importance d'une approche régionale pour cette question de la négociation, puisqu'on voit très bien que ces groupes passent d'un pays à un autre. Et donc on aborde là le cas du Mali, du Burkina, mais le Niger aussi, à travers le président Mohamed Bazoum, a également indiqué qu'il était désireux de s'inscrire dans cette dynamique de dialogue.
J'aimerais qu'on revienne sur cette approche régionale en seconde partie. Voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Alphonse Mbaki à Kinshasa nous dit: dans ces discussions, il faut écouter et répondre aux demandes acceptables et rejeter les requêtes nuisibles au fonctionnement des États, aux droits humains, à la démocratie, à la liberté humaine et à l'unicité ainsi qu'à la laïcité de l'État. Yao Marcelin Kofi à Abidjan écrit: la crise sécuritaire au Sahel est une guerre asymétrique où l'ennemi est inconnu, donc la solution ne peut être que militaire. Et puis Archiduc Théodore Ndjamena nous dit que la solution se situe aussi dans le dialogue, car l'option militaire dans son intégralité a échoué. Il n'y a pas de formule unique pour la paix. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture, nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. A très bientôt dans Washington Forum. Retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités de nos studios de Paris, Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, à Ouagadougou, au téléphone Ismaël Diallo, ancien député, ancien diplomate burkinabé, à Lubumbashi en RDC, Henri Désiré Zouzi, analyste politique, producteur associé du JT diplomatique. Et justement, Niagale, avant la pause, Henri évoquait un peu le cas des émissaires de la paix en RDC avec les risques mais également les avantages. Au Sahel, on a évoqué un peu le cas de l'imam Diko, mais est-ce que ce cas, il y a aussi les repentis, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans les mouvements djihadistes, est-ce qu'ils peuvent jouer un rôle aujourd'hui, ceux qui sont repartis? On sait qu'on en a beaucoup au Niger et au Nigeria aussi.
Alors justement, en effet, hein, de ce point de vue-là, le cas du Nigeria est extrêmement intéressant, puisqu'il y a eu une approche en termes d'amnistie qui a été retenue notamment dans la région de Diffa, qui n'est pas la même que celle qui est retenue dans la région de Tillabéri. Et ça démontre que cette question de la négociation ne peut pas nécessairement être gérée de manière équivalente sur toutes les portions d'un même territoire.
Alors Ismaël, justement le cas de repentis avec par exemple le cas du Niger où on a offert l'amnistie, c'est un cas viable pour le Burkina?
Il faudrait être très conservateur sur cette question d'octroi de l'amnistie. Il ne faudrait pas que l'amnistie soit un cadeau à l'impunité. Et il ne faudrait pas le mettre en avant avant les discussions. Mm-hmm. Je crois que ça fait partie de tout un package. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'il faut le donner. Et la donner, il faut donc être très prudent avec ce genre de choses. Et alors, on est vraiment en négociation, en position de faiblesse. Et dans ce cas, on est obligé d'accepter toutes les exigences des groupes armés. Et je crois qu'il faut faire extrêmement attention de ce côté-là. Le gouvernement, quel que soit sa faiblesse, ne devrait pas s'engager dans ce chemin-là en mettant en avant l'amnistie.
Mais qu'est-ce qu'on peut leur offrir si ce n'est pas l'amnistie, par exemple?
Mais cela dépendra. Il ne faudrait pas donner une prime à l'impunité, parce qu'après, ces groupes armés, certains d'entre eux pourront recommencer en disant « je ne suis pas satisfait du sort qui m'a été réservé, je recommence ». Cela s'est vu en RCA, cela s'est vu au Mali. Alors, il y a un moment donné, l'État doit être suffisamment fort pour imposer l'état des droits.
D'accord. Alors, Henri, les négociations internes sont une chose, mais qu'en est-il de l'implication des instances régionales ou continentales, sachant que ces crises touchent plusieurs pays à la fois?
Alors, évidemment, l'exemple le plus récent, c'est bien évidemment l'accord cadre d'Addis Abeba qui remonte au mois de février 2013, où vous avez les 11 pays de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs qui sont arrivés à un consensus sur la manière de traiter ce problème sécuritaire à l'est de la RDC. Simplement, l'exercice a ses limites dès lors que vous avez parmi les pays membres de la CIRGL des pays dont il est avéré, prouvé qu'ils apportent une aide financière, militaire à certains groupes armés. On pense évidemment au Rwanda et à l'Ouganda qui, durant de longues années, n'ont pas caché leur soutien à certains groupes armés, ce qui d'ailleurs a abouti, je l'ai évoqué tout à l'heure, à l'accord de Pretoria en 2002, accord qui fut d'ailleurs entériné à Sun-City en 2003 et qui a donné lieu au fameux schéma 1+4. Oui, pour une dynamique régionale, mais à condition que tous les acteurs jouent franc jeu, parce que finalement, ce dont on se rend bien compte dans le cas de la RDC, c'est que, outre la dimension interne du conflit, vous avez des groupes armés qui sont en opposition avec les régimes dans les pays voisins, qui se replient en territoire congolais, qui causent des dégâts et qui mettent à mal, bien évidemment, les relations entre la RDC donc, et ses voisins. L'exemple le plus récent, évidemment, c'est celui du M23 qui avait été, à un moment donné, défait, mais qui, aujourd'hui, on le sait, a repris du service, en dépit du fait que les déclarations de Nairobi de 2013 garantissaient un certain nombre de recommandations qui n'ont jamais été mises en œuvre.
Justement, il y avait c'est un peu compliqué quand ces groupes ont des pays de repli, en fait. Pour le cas du Sahel, justement, vous l'évoquiez un peu plus tôt, comment est-ce qu'on peut s'y prendre sur le plan régional?
Alors, je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, distinguer la coopération entre les États de la région à titre bilatéral et, d'autre part, les négociations, enfin le cadre qui pourrait être offert par des organisations multilatérales, sous-régionales. On peut penser au cadre du G5 Sahel, par exemple, ou de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CDEAO. Cela dit, on s'aperçoit que ces organisations multilatérales ont aujourd'hui perdu beaucoup de crédibilité en termes d'implication dans cette lutte contre le terrorisme, notamment parce que, pour ce qui concerne la CDEAO, son plan d'action, sa stratégie, qui avait été définie il y a maintenant plus de 3 ans, n'a jamais été véritablement mise en œuvre. Et d'autre part, pour ce qui est du G5 Sahel, on voit très bien que l'approche militaire, cette fois coordonnée, n'a pas non plus produit d'éléments. Mais il existe une initiative qui est assez intéressante, à mon avis, qui s'appelle l'initiative d'Accra et qui implique les pays du Golfe de Guinée également et qui a pour objectif de prendre précisément en considération cette dimension transnationale de leur lutte et de leur combat.
Ouais, et justement, Ismaël, dans ce contexte un peu de remise en cause des institutions dont parle Niagalé, est-ce que ces institutions ont toujours un rôle de facilitateur à jouer? Oui, les institutions internationales, notamment la CDAO, même l'Union africaine, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans les négociations?
La CDAO et l'Union africaine, je suis de regret de le dire, n'ont jamais pris par leur anticipation des événements et par la qualité de leur médiation. Et je suis vraiment au regret de devoir le dire. Il semble que ces organisations sont constituées de fonctionnaires grassement payés qui sont très contents d'être là où ils sont et des chefs d'État qui sont également contents de gérer le quotidien. Que ce soit l'intégration, que ce soit empêcher les troisièmes mandats et le coup d'État, il faut aller au-delà de ce que nous sommes en train de faire. Mais tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas empêcher l'un et l'autre. Il ne faudrait pas vouloir une cause de son contraire, ce n'est pas possible. En attendant que ces organisations, peut-être qu'elles servent à quelque chose, mais en tout cas, l'homme de la vie ne sait pas très bien à quoi elle sert, même si c'est vrai qu'elle doit servir à quelque chose.
Même question à vous, Henri. Comment est-ce que les institutions régionales peuvent jouer un rôle de facilitateur alors qu'il y a une certaine remise en cause, même au niveau des opinions publiques?
Alors, bien évidemment, dans le cas de la RDC, par exemple, vous avez une situation qui impacte forcément sur la sécurité des pays voisins. Cela vient d'être évoqué par Niagalé. Il y a effectivement des coopérations au niveau bilatéral. Officiellement, vous le savez, il y a de cela 13 ans, il y a eu notamment l'opération Umujawetu, conjointe entre l'armée rwandaise et congolaise, officiellement pour déloger les FDLR. Et puis, d'un autre côté, les opérations Sokola avec l'armée ougandaise, mais qui n'ont jamais donner de résultats. Donc, il faut effectivement agir à deux niveaux, mais je le rappelle, ce qui est très important, c'est de pouvoir identifier les points de convergence et en jouant franc jeu, parce qu'effectivement, certains pays continuent à être en situation de rente sécuritaire, c'est-à-dire qu'ils tirent profit de l'activisme de certains groupes armés dans les pays voisins pour se renforcer, et ça, c'est une situation qui est inacceptable.
Mmh. Et Niagalé, vous parliez un peu plus tôt du G5 Sahel. On a l'impression qu'il n'y a que l'aspect militaire qui est un peu en vue, qui d'ailleurs piétine, selon beaucoup en tout cas. Et pourtant, il y a d'autres volets en dehors de l'aspect militaire.
Alors, il est très important de rappeler que le G5 Sahel est une organisation multilatérale dont la vocation est de promouvoir non seulement la sécurité mais aussi le développement. Et ce n'est que 3 ans après la fondation du G5 lui-même qu'une force conjointe a été mise sur pied en 2017. Donc, en effet, l'attention internationale a eu tendance à se focaliser sur cette force, mais en réalité, de nombreux programmes ont été lancés, notamment en partenariat avec la fameuse Alliance pour le Sahel, cette alliance internationale à laquelle contribuent les partenaires internationaux, aussi bien à titre bilatéral qu'à titre multilatéral.
Voilà, donc Ismaël, vous aurez le dernier mot en 15 secondes. Cette idée de négociation, vous êtes optimiste tout de même avec les troupes djihadistes? 10 secondes.
Il vaut faudrait savoir le faire et il faudrait savoir avoir la maîtrise de ces discussions. Il ne faudrait pas les laisser traîner en longueur, mais il ne faut pas aussi être pressé d'avoir des résultats détriments de l'État et des populations pays.
Voilà, merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Je remercie nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.
C'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ndare Kalinglopi à Cotonou.